France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Laurie Lefebvre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cours de mes interventions dans cette émission sur l'inconscient, j'ai choisi de vous parler d'une parole entendue lors d'une séance. Une parole qui peut être celle de beaucoup d'entre nous, d'une expression, d'un mot, pour vous évoquer la façon dont j'exerce la psychanalyse. La façon dont on peut entendre l'inconscient et travailler avec l'inconscient, ou d'être travaillé par l'inconscient, par ses mots, ses silences, ses oublis. La séance dernière, je vous ai parlé de ce que je pouvais entendre à partir de la question « Dites-moi ce que j'ai ». « Dites-moi le nom de ma maladie ». « Est-ce que je suis phobique ?»« Hystérique ?»« Borderline ?» Et nous avons réfléchi ensemble à ce que pouvaient avoir comme effet sur la vie psychique ces façons de se définir et de se nommer. Aujourd'hui, dans cette série de paroles entendues, je souhaiterais vous parler d'une situation clinique difficile, celle du deuil, celle de la disparition d'un proche. Parfois j'entends « je ne sais pas si je vais pouvoir continuer, je ne sais pas si je peux lui survivre ». Les phrases que je peux entendre sont celles-ci. « Sa mort n'a pas de sens, je ne peux pas continuer, je ne sais pas comment faire sans lui, je ne peux pas vivre sans elle. Il faut que je continue, mais je ne sais pas si je vais y arriver ». Au moment de la mort de sa fille Sophie, Freud écrit « On sait que le deuil aigu que cause une telle perte trouvera une fin, mais qu'on restera inconsolable sans trouver jamais de substitut. » Le deuil désigne un phénomène psychologique de l'ordre de la douleur morale et physique. Après avoir partagé avec vous ces réflexions sur le deuil, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
L'inconscient, avec Laurie Lefebvre, sur France Inter.
Lorsque des personnes arrivent avec l'annonce d'une mort brutale, une mort inattendue, l'annonce de la mort traumatique, de la disparition d'un proche, que dire ? Que puis-je leur dire depuis ma position d'analyste ? Nous sommes dans le cadre de l'analyse, c'est-à-dire ni dans un lien familier, ni dans un lien amical, mais dans un cadre intime et proche. Cette intimité, cette proximité psychique est très importante dans une situation où le patient dit avoir perdu tout sens à la vie par la disparition et la mort d'un être qui lui est cher. Que dire ? Qu'entendre de la détresse que peut exprimer un patient ? Que dire face à son chagrin, face à sa détresse devant la perte d'un être aimé ? Il s'agit pour l'analyste que je suis d'être proche, d'être dans une proximité ni familière ni amicale, mais dans une proximité qui atteste d'un certain tact, d'une certaine présence. C'est très difficile d'avoir du tact, c'est une certaine façon d'être touché, et de savoir toucher l'autre sans le heurter, sans le blesser lorsque la chair est déjà à vif. Face à l'absence évoquée, il s'agit donc d'être présent. Et une présence pleine n'est pas toujours une parole. Écouter la détresse, c'est aussi une certaine expérience de la disparition pour l'analyste que je suis. Dans certaines situations éprouvantes liées au deuil, une parole de consolation ne console pas. Un mot sympathique n'est pas forcément sympathique. Une parole de compréhension ne comprend rien. Dans certaines situations où la perte est un désespoir, une abstention de certaines paroles convenues, c'est-à-dire un peu vides, eh bien cette abstention est parfois nécessaire dans le cadre de l'analyse. Il s'agit de créer une certaine qualité de présence face à l'absence. Une jeune mariée vient de perdre son mari 2 mois après leur mariage heureux. Elle est anéantie, dit-elle. Que lui dire ? Que je comprends ? Non. Que je compatis ? Elle s'en moque sans doute. que le temps va passer, il ne passe déjà plus. « Je n'existe plus », dit-elle sans cesse. Je ne peux que soupirer et lui dire un faible « oui » pour la soutenir, pour la contenir, pour peut-être créer une sorte d'enveloppe très fine par ma présence, ni trop, ni pas assez. C'est cette proximité qui est peut-être un acte d'analyse dans la situation de deuil. Je pense, je sais que le travail en analyse sera long, car le temps pour elle est suspendu. Il ne peut pas passer, il ne peut plus passer. Elle me dit « Si je ne pense pas à lui, j'ai peur de l'oublier. » Jacques Lacan, le psychanalyste français, avait imaginé le terme de traumatisme pour signifier l'effraction, la blessure traumatique que peut provoquer la mort brutale. Il avait aussi joué sur le mot de traumatisme, trop, T-R-O-P, pour faire entendre l'excès, le trop de douleur. Un trop de douleur impossible à contenir par la vie psychique. Un excès que Freud nomme hémorragie. Un excès qui troue le tissu psychique jusqu'à l'hémorragie. Face à ces traversées douloureuses et ces expériences subjectives qui peuvent parfois être désorganisantes, un discours courant s'est imposé peu à peu. Vous le connaissez probablement. On entend souvent parler des étapes du deuil, mises en place par Elisabeth Kübler-Ross en 1960. Il y aurait cinq étapes. Le déni, c'est-à-dire le refus de la réalité, puis la colère, puis la tristesse, puis le renoncement et enfin l'acceptation. Je n'ai rien contre ces discours. Ils sont parfois nécessaires pour les praticiens dans des situations cliniques très angoissantes. Je peux simplement vous dire que dans ma pratique clinique, lorsque je reçois des patients dévastés par le chagrin, ce n'est pas aussi simple que cela. Oui, la colère est parfois nécessaire, mais elle n'est pas seulement une étape, ni la tristesse d'ailleurs. Et que veut dire acceptation ? Serait-ce que l'on a bien fait son « travail de deuil » ? C'est une étrange expression d'ailleurs que celle de travail de deuil. Daniel Lagache, qui est un psychanalyste français et un des premiers professeurs de psychologie à la Sorbonne, a écrit des choses très intéressantes sur le deuil. Dans un numéro de la Revue française de psychanalyse, il écrit, je le cite, « Deuil fait penser aux obligations que la société impose aux parents du mort pendant un temps plus ou moins long. On oublie que par ses origines et par certaines survivances, deuil désigne un phénomène psychologique de l'ordre de la douleur physique et morale. » Et il poursuit en disant « L'insolite expression « travail de deuil » évoque l'idée d'un effort intense et ardu en vue d'un résultat à obtenir. » Je trouve que cette citation est très intéressante, car il a raison de dire que l'expression « travail de deuil » est insolite. Que faudrait-il atteindre par ce travail ? Le risque, donc, avec ces discours adaptatifs, avec ces discours programmatiques, c'est qu'ils peuvent culpabiliser les patients qui ne respectent pas les étapes prescrites, qui peuvent donc culpabiliser des patients dont le chemin ne correspond pas à ces étapes. Il peut y avoir parfois aussi, dans les discours courants, une pathologisation des personnes qui ne suivent pas ces étapes-là, qui peuvent entendre que, quand même, cela fait tant de temps déjà et il est toujours aussi triste et en détresse, ce n'est pas normal. Par exemple, une patiente me dit qu'elle a lu quelque part qu'au-delà de 15 jours, il faut avoir fait son deuil, sinon c'est grave, sinon c'est pathologique. Freud le dit bien au moment de la mort de sa fille. Il y aura une fin, mais on restera inconsolable. Et cela n'est pas pathologique. Alors pourquoi, parfois, cela peut mettre du temps ? L'écrivain Christian Bobin, dans son ouvrage sur la disparition de sa femme, intitulé « La plus que vive », écrit « Je suis devant ta mort comme devant une énigme ». Effectivement, pour Freud, le deuil est d'abord une énigme. Freud avait employé le terme déjà dans son ouvrage « Deuil et mélancolie ». Il écrit, je cite Freud, « Le deuil est une énigme, un phénomène qu'on ne tire pas au clair et qui ramène à des choses obscures. » Il ajoute que la raison de l'état de deuil reste une énigme pour le psychologue.
L'inconscient, avec Laurie Lefer, sur France Inter.
Freud ne cesse de répéter que le deuil est une difficulté à comprendre. Et il poursuit dans ce même ouvrage, « Nous ne pouvons même pas dire par quel moyen le deuil accomplit sa tâche. Mais peut-être une supposition peut-elle ici nous venir en aide. Sur chacun des souvenirs et des situations d'attente qui montrent que la libido est rattachée à l'objet perdu, la réalité prononce son verdict. L'objet n'existe plus. » Pour Freud, il y a un verdict de la réalité. Comme il le dit, l'objet aimé n'existe plus. Mais il ajoute que la tâche qui consiste à se détacher de l'objet perdu demande une grande dépense de temps et d'énergie. Et ce qui est tout à fait intéressant dans son analyse, c'est qu'il rajoute que pendant ce temps, l'existence de l'objet perdu se poursuit psychiquement. En fait, ce que Freud montre, c'est qu'il y a une tension entre la réalité, l'objet n'existe plus, et la réalité psychique, l'objet continue d'exister pour l'endeuillé. C'est exactement ce que note Freud lorsqu'il rapporte cette phrase d'un enfant qui vient de perdre son père. À ma grande stupéfaction, un enfant de 10 ans très intelligent me dit après la mort subite de son père « Je comprends bien que mon père est mort, mais je ne peux pas comprendre pourquoi il ne rentre pas dîner ce soir. » C'est pourquoi, lorsque des patients endeuillés disent qu'ils parlent tous les jours à leur mort, il est important de les entendre sans pathologiser ce moment-là, en disant, par exemple, qu'il y aurait un déni. C'est un moment important de la traversée du deuil. C'est un moment important du deuil même. Je sais bien qu'il est mort, mais quand même, je ne le veux pas, je ne le sais pas. L'objet est mort et l'objet existe encore. Il y a une simultanéité contradictoire. Je sais bien, mais quand même, je ne l'accepte pas. Ce n'est pas une question de volonté, ni de temps chronologique, 15 jours, un mois ou je ne sais combien de temps. C'est peut-être dans ce moment-là que l'expérience du deuil se traverse. Le verdict de la réalité ne suffit pas à cautériser l'hémorragie psychique. Il faut du temps, un temps subjectif et inconscient, pas le temps de l'horloge. La psyché, comme le corps, demande du temps. Ce qui est une énigme pour Freud, et que nous pouvons constater dans la clinique, c'est que bien que l'objet n'existe plus, bien que la réalité prononce son verdict, rien n'y fait. Le deuil dure. C'est bien donc qu'il y a une énigme. Et l'énigme du deuil prend toute sa dimension dans des manifestations diverses et inattendues. Inattendues comme par exemple l'histoire de ce que l'on a appelé le soldat inconnu vivant.
Monsieur le médecin-chef, je vais vous faire conduire sous escorte un soldat trouvé errant. Il ne sait ni d'où il vient, ni quel est son nom.
Amnésique totale, sans affection précise. Il importe d'identifier au plus vite ce malade. Outre qu'il peut guérir en retrouvant une atmosphère de son passé, Il faut songer qu'une famille pleure peut-être un des siens qu'elle croit mort.
Lors de la Première Guerre mondiale, un soldat français est blessé par un obus. Il perd la mémoire et la parole. Personne ne sait qui il est, pas même lui-même. La préfecture de la région qui le recueille publie une photo de lui dans le journal local pour voir si une famille peut venir le chercher.
C'est lui. C'est mon petit.
Eh bien, des dizaines de familles sont venues chercher cet homme. Photos en main, photos de leurs disparus en main.
Madame, honnêtement, je crois que vous vous trompez. Le signalement de votre disparu, les photos, tout ça ne correspond pas du tout. Votre propre gendre, les anciens camarades de votre fils sont formels. Ce n'est pas lui.
Je suis sa mère. Je vous dis que c'est mon fils.
Bien. Nous allons étudier le dossier.
Malgré le verdict de la réalité, c'est-à-dire que les photos des familles montraient bien que ce n'était pas lui, eh bien rien n'y faisait. Des familles voulaient récupérer ce soldat inconnu vivant en étant convaincues, malgré la réalité, que c'était leur fils, leur père ou leur frère disparu. Sur cette énigme de la perte, Freud donne une piste de réflexion clinique lorsqu'il dit que, je le cite, « l'endeuillé sait sans doute qui il a perdu, mais non ce qu'il a perdu en cette personne. Il y a donc une double perte. Un patient me dit « ce qui me manque, c'est de ne plus lui manquer ». Ce n'est pas seulement le proche qui est mort, mais aussi ce que j'étais pour lui. Une part de moi disparaît avec le disparu. C'est cela la douleur de la double perte. Le deuil, c'est entendre que l'autre n'est plus et entendre que je perds une partie de moi. Pour évoquer cela, Jean Allouche, qui est psychanalyste, a une belle expression dans son livre « L'érotique du deuil en temps de perte sèche ». Je le cite, « On perd un petit bout de soi, ni toi, ni moi, soi. » Un petit bout de soi est parti avec le mort, laissant l'endeuillé amputé de ce bout de lui-même. La douleur du deuil est cette amputation d'un bout de soi. Un homme me dit « J'ai senti à l'annonce de la mort de mon fils que la terre s'ouvrait comme un gouffre. J'ai senti physiquement une déchirure. Mon corps se séparait en deux comme pour ne pas tomber dans le gouffre. » On l'entend ici, dans cette phrase. L'expérience de la douleur est une expérience corporelle, pas seulement psychique. Il y a des effets sur le corps par la douleur. Cet homme évoque cette déchirure corporelle. Ces effets peuvent se manifester par des sensations physiques, des impressions corporelles qui peuvent paraître étranges. Mais c'est l'expérience même de cette séparation, de cette déchirure, de cette coupure du corps en deux, qui protège parfois ce patient d'un excès hémorragique du traumatisme. Excès qui le ferait tomber dans le gouffre, dans ce trou de la réalité qui s'ouvre sous lui. Ce que m'a dit cet homme m'a rappelé ce que j'ai lu dans le livre de Jean Allouche concernant la mort accidentelle de sa fille. Il écrit « Juste après avoir été averti de la mort de ma fille, dans la seconde qui suivit, puis d'une façon à chaque fois ponctuelle durant les deux ou trois jours qui suivirent, j'ai eu une impression corporelle des plus étranges, jamais ressentie avant ni d'ailleurs depuis. Mon corps était devenu un corps de verre. Mon corps était comme fait d'un verre fragile, d'un cristal aussi mince qu'une feuille de papier à cigarette. Si quelqu'un m'avait un tant soit peu touché, je me serais brisé en morceaux. J'étais comme juste avant d'être brisé. » Dans cet extrait, Jean Allouche fait lui-même cette interprétation. Sa fille, dit-il, a heurté le pare-brise en verre de sa voiture. Il était donc devenu ce verre brisé. Il y a donc dans les expériences de deuil la douleur psychique, la désorganisation corporelle et aussi parfois une temporalité suspendue.
L'inconscient avec Laurie Lefer sur France Inter.
Une patiente arrive et me raconte la mort de son frère qui s'est suicidé. Elle m'en parle avec une telle intensité, un tel chagrin, que je pense qu'il s'agit d'une mort récente. En réalité, il y avait 20 ans que son frère était mort. Le temps ne passe pas. C'est aussi l'expérience du deuil. Vous entendez d'ailleurs que je préfère l'expression « expérience » à celle de « travail ». Un temps qui ne passe pas. Cela ne cesse pas. L'événement s'est suspendu et dans la parole et dans le corps. Comme le temps ne passe plus, l'événement de la mort ne peut plus passer non plus. Cet événement ne cesse pas. C'est pourquoi cette femme ne cesse d'en parler. Un temps qui ne passe pas, comme l'évoque Georges Brassens dans sa très belle chanson « L'orphelin ». Bien sûr, cette femme tente de donner du sens à une mort insensée, incompréhensible. Elle parle de culpabilité de lui survivre, de ce qu'elle aurait dû faire ou ne pas faire. Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est qu'elle dit souvent que c'est elle qui est morte. Comme l'écrit Freud, l'ombre de l'objet est tombée sur le moi. Tout se passe comme si, pour continuer de faire vivre son frère mort, il fallait que ce soit elle qui soit morte. Il y a une sorte d'identification au disparu. Elle est engloutie par l'ombre de son frère, dans l'incapacité qu'elle a à s'en séparer, donc à le tuer peut-être. Elle est comme le tombeau de son frère. Son frère est un vivant mort, alors qu'elle est une morte vivante. C'est pourquoi quand elle parle, je la sens hantée par la mort et hantée par un fantôme. Un jour, elle me dit qu'elle a vu son frère dans la rue, qu'elle en est sûre. Elle me demande si je crois au fantôme. Je lui réponds « parfois ». Et je rajoute « en tout cas, je crois qu'on peut ne pas en avoir peur ». Elle a eu l'air soulagée et avait même esquissé un sourire. Je ne sais pas ce qui l'a soulagée dans mon intervention. Ces moments de presque hallucination où l'on peut voir un retour de fantôme peuvent aussi être des expériences de deuil structurantes. Il était là, car ils sont là, tout en n'étant plus là. L'hallucination est la dimension visuelle de cette situation paradoxale. Tous ces moments de suspension, tous ces moments de hantise, de contradiction sont des expériences de deuil. C'est pourquoi l'expérience du deuil peut se manifester par une désorganisation temporelle, corporelle, psychique. La vie psychique peut donc connaître un moment hallucinatoire. Le temps peut être suspendu, mais aussi la mémoire. Annie Dupéret a écrit un très beau livre à partir de photographies de ses parents morts dans un accident de voiture. Ce livre s'appelle « Le voile noir ». Elle écrit « Ma vie a commencé le jour de leur mort. Il ne me reste rien d'avant, que ces images en noir et blanc. » Parfois, le traumatisme peut créer une amnésie, une perte de mémoire, une amnésie traumatique. On ne se souvient de rien. Pas de souvenirs d'enfance, rien. C'est aussi ce qu'écrit Georges Perec, l'écrivain. Il dit « Je n'ai pas de souvenirs d'enfance. Jusqu'à ma 12e année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes. J'ai perdu mon père à 4 ans, ma mère à 6.
Ton père est mort. Où ? À l'école. Quand à la rentrée d'octobre, on remplissait les petites fiches pour les professeurs qui ne vous connaissaient pas. Profession du père, décédé.
Profession du père, décédé.
W ou le souvenir d'enfance, de Georges Perec.
Le projet d'écrire mon histoire s'est formé presque en même temps que mon projet d'écrire. À 13 ans, j'inventais, racontais et dessinais une histoire. Plus tard, je l'oubliais. Je me souvins tout à coup que cette histoire s'appelait W et qu'elle était d'une certaine façon, sinon l'histoire, du moins une histoire de mon enfance.
Que disent Annie Dupéret et Georges Perec lorsqu'ils évoquent la perte de leurs parents par l'absence même de souvenirs? Vous l'entendez, une perte traumatique peut désorganiser la vie psychique, la mémoire, le corps, le temps. C'est pourquoi les étapes du deuil ne suffisent pas toujours à réorganiser la vie psychique, la mémoire, le corps, le temps. Il s'agira peu à peu de traverser l'épreuve, de remettre de la pulsion de vie à l'endroit des angoisses de mort, de faire de ces fantômes ses alliés, en acceptant que la cicatrice soit toujours là, sans consolation possible, sans substitut. En parlant de nouveau de fantômes, je voudrais terminer par cette histoire que raconte le psychanalyste Ferenczi. Dans un article qu'il consacre aux fous dans la littérature, Ferenczi cite une nouvelle d'Anatole France, écrivain français. Une nouvelle qui résonne comme le récit d'un cas. Je vous lis le passage d'Anatole France. J'ai connu dans mon enfance un vieillard qui était devenu fou en apprenant la mort d'un fils unique, enseveli à 20 ans sous une avalanche du Rigi. Sa folie consistait à s'habiller en toile à matelas. À cela près, il était parfaitement sage. Quand il entrait dans une maison amie, son premier soin était de se dépouiller de l'espèce de guenille à grands carreaux qui le rendait ridicule. Il l'arrangeait sur un fauteuil de manière qu'elle semblait autant que possible recouvrir un corps humain. Il y plantait sa canne, comme une sorte de colonne vertébrale, puis il coiffait la paume de cette canne avec son grand chapeau de feutre dont il rabattait les bords et qui prenait sous ses doigts un aspect fantastique. Quand cela était fait, il contemplait un moment sa défroque de l'air dont on regarde un vieil ami malade qui dort, et aussitôt, il devenait l'homme le plus raisonnable du monde, comme si en vérité, ce fût sa propre folie qui sommeilla devant lui dans un habit de carnaval. Que de fois j'ai pris plaisir à le voir et à l'entendre. Il parlait sur tous les sujets avec beaucoup de raison et d'intelligence. C'était un savant, nourri de tout ce qui peut faire connaître le monde et les hommes. Je serais impardonnable d'oublier qu'il était excellent humaniste. Sa mémoire était fidèle. Il gardait le souvenir de tous les événements de sa vie, hors celui qui l'avait bouleversé. La mort de son fils semblait tout à fait sortie de sa mémoire. Du moins, on ne l'entendit jamais prononcer un seul mot qui pût faire croire qu'il se rappelait en quoi que ce soit ce terrible malheur. Il était d'humeur égale, presque gaie, et reposait volontiers son esprit sur des images douces, affectueuses, riantes. Il recherchait la compagnie des jeunes gens. Son esprit avait pris, dans leur fréquentation, un tour pédagogique très prononcé. Après s'être vêtu une vingtaine d'années, été comme hiver, d'un surtout de toile à matelas, il parut un jour avec une veste à petits carreaux qui n'était pas ridicule. Son humeur était changée, comme son costume. Mais il s'en fallait de beaucoup que ce changement fût aussi heureux. Le pauvre homme était triste, silencieux, taciturne. Quelques mots à peine intelligibles qui lui échappaient trahissaient l'inquiétude et l'épouvante. Son visage, qui avait toujours été fort rouge, se couvrait de larges plaques violettes. Il refusait toute nourriture. Un jour, il parla du fils qu'il avait perdu. On le trouva le lendemain matin pendu dans sa chambre. Ce qui est intéressant dans ce cas clinique de Anatole France, c'est que ce vieillard survivait grâce à son symptôme. Grâce à la manifestation de son inconscient, une manifestation inconsciente de sa volonté de vivre en dépit de la perte. La folie du vieillard consistait à s'habiller en toile à matelas. Il mettait en scène son fantôme. Sa mise en scène avait pu créer une forme de manière qu'elle semblait autant que possible recouvrir un corps humain. En somme, le vieil homme fabrique, produit les formes de son fantôme. C'est pourquoi vivre avec des fantômes créés par le patient lui-même peut soutenir un temps, un moment, quelque chose de sa vie psychique. L'expérience du deuil peut passer par ces moments-là, par des moments qui peuvent paraître étranges, insolites, qui n'entrent dans aucune rationalité. Tout se passe comme si l'amnésie partielle du vieil homme lui permettait de survivre au traumatisme. Quand l'analyste veut aller trop vite, quand l'analyste veut que le patient parle de son traumatisme, parle de la disparition, il y a un risque. Il y a parfois le risque de briser le verre, le risque de faire tomber les formes du fantôme. Le retour de souvenirs peut être parfois trop brutal. Et ce trop, c'est encore du traumatisme. Alors, lorsque la question de certains patients revient, mais pourquoi continuer? Eh bien, je reprends ce que dit Pérec, je le cite. La question n'est pas pourquoi continuer, ni pourquoi je n'arrive pas à continuer, mais comment continuer. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui autour des phrases concernant la douleur du deuil et de la disparition.
France Inter présente son premier podcast interactif. L'inconscient avec Laurie Lefer.
Je vous rappelle que nos épisodes sont disponibles sur les plateformes d'écoute et que vous pouvez nous laisser, avant la diffusion à l'antenne, vos questions sur notre page L'inconscient sur franceinter.fr ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Je répondrai dans un instant aux questions que m'ont adressées les auditeurs et les auditrices qui ont déjà écouté cet épisode en podcast. Mais avant nos échanges, je vous propose d'écouter Nick Cave, Weeping Song.
Then why are all the men?
C'est à vous maintenant de poser vos questions et je vous écoute.
Bonjour, mon prénom est Neil. Ma question est la suivante. Vous évoquez en début d'émission votre posture en tant que professionnel face à une personne qui vient vous consulter pour un deuil en parlant de tact. Un tact fait d'écoute, fait de juste proximité avec la personne concernée. Ma question est donc, vous précisiez bien que c'est dans le cadre de l'analyse. Est-ce à dire que pour les proches, pour les amis, pour les collègues, il y aurait d'autres postures à adopter et si oui, lesquelles ? Merci d'avance pour vos réponses.
Merci beaucoup, Neil, pour votre question qui est, je crois, très importante et qui nous permet de penser la question du collectif et du social. Comment le social, comment la communauté, comment le collectif accompagne et soutient un endeuillé? Votre question me fait penser à un livre que je trouve très intéressant, un livre de Philippe Ariès, qui s'appelle « L'homme et la mort en Occident » et qui montre très bien comment les rituels de deuil ont en fait, en tout cas en milieu urbain, on peut le dire comme ça, ont disparu. Et il parle même d'invisibilisation de la mort. Philippe Ariès dit que l'endeuillé se retrouve en fait isolé, sans communauté, sans rituel. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant votre question, votre témoignage, parce que les proches, les amis, les collègues, comme vous dites, font partie de ce collectif qui peut accompagner, qui peut ritualiser à un moment donné le deuil pour éviter que l'endeuillé se sente trop isolé. Quand Ariès parle, par exemple, de l'invisibilisation de la mort, il parle même d'ensauvagement de la mort. Je trouve que c'est un terme tout à fait intéressant. Eh bien, quand il parle de ça, il dit, prenons quelques exemples. Vous voyez, les signes du deuil, lorsque, auparavant, on s'habillait en noir, c'était pour marquer quelque chose d'un chagrin que l'on pouvait avoir parce que nous étions endeuillés. Et la communauté le savait. Et comme le collectif voit qu'une personne est habillée en noir, eh bien, il peut entourer et accompagner cette personne. Un autre exemple, dans les grandes villes, il n'y a plus de fourgonnettes noires avec les grandes tentures qui traversent les rues. C'est-à-dire que la question des rituels de deuil, en somme, ont disparu un peu de l'espace public. Et ça contribue à l'isolement de l'endeuillé. Donc les amis, les proches, les collègues, eh bien, peuvent contribuer à redonner au collectif la capacité de ritualiser et d'accompagner le deuil.
Bonjour, ceci est un message de Gloria. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce podcast très fin et émouvant sur l'expérience du deuil. Alors ma question est la suivante. Dans l'expérience du deuil que vous évoquez, je suis absolument d'accord sur le fait qu'il y a un avant et un après. Et justement, quand on pense à ça, à l'avant et un après, dans une famille ou dans une fratrie, une fois que l'expérience du deuil a été vécue, les places après le deuil ne sont plus tout à fait les mêmes que celles qui étaient avant le deuil. Qu'est-ce qui se joue quand chacun prend sa place après le deuil? Je vous remercie.
Merci beaucoup, Gloria, pour votre question très fine. qu'est-ce qui se joue quand chacun prend sa place après le deuil? Eh bien, si je reprends votre question, je dirais chacun va prendre une autre place. Une autre place, c'est-à-dire que l'expérience du deuil est une expérience de déplacement. On ne compte plus de la même façon. Et quand je dis ça, c'est une façon équivoque de dire que on ne se compte plus de la même façon dans une fratrie ou dans une famille, et on ne compte plus de la même façon pour l'autre, parce qu'il y a précisément ce déplacement. Et votre question me fait penser à une situation clinique que j'ai vécue lorsque je travaillais comme psychologue à l'hôpital, il y a quelques années, et je visitais une femme âgée et qui était malade et que j'allais voir de temps en temps. Et afin de mesurer, de voir son degré de confusion cognitive lors des visites, un médecin un jour lui pose une question. Il lui dit « Combien avez-vous d'enfants ?» Et je savais que cette femme âgée avait perdu un enfant. Eh bien, elle n'a pas su répondre. Parce que qu'est-ce que c'est que cette question ? Combien avez-vous d'enfants lorsqu'il y a eu la perte d'un enfant ? À partir de quand on compte ? Est-ce qu'on compte à partir de la réalité effective ou à partir de la réalité psychique de cette mère endeuillée ? Et je trouve que c'est tout à fait intéressant, parce que lorsqu'on pose la question dans une fratrie, combien avez-vous de frères et sœurs ? S'il y a eu un décès d'un frère ou d'une sœur dans une fratrie, qu'est-ce qu'on compte ?
Bonsoir, merci beaucoup pour votre podcast, c'est vraiment très intéressant. Ma maman est morte il y a 2 ans. Et voilà, encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal dans mon quotidien à accepter. Donc j'ai vraiment souvent envie de parler d'elle pour raconter des anecdotes, mais même des choses qui sont pas forcément super intéressantes. Et voilà, c'est quelque chose qui me fait du bien et qui en même temps me donne vraiment envie de pleurer. Et je me demandais si c'était peut-être quelque chose qu'il faudrait que je m'interdise de parler pour peut-être réussir à un petit peu mieux vivre et retrouver un peu l'élan de vie. Et quand j'ai perdu ma maman, je suis allée voir une psychologue et je me suis arrêtée à 2 séances parce que je répétais un peu la même chose, que la seule manière de me faire aller mieux serait de faire revenir ma maman. Et justement, je vais fixer quelque chose d'impossible. Je voulais savoir en quoi, selon vous, ce travail d'accompagnement pouvait aider le patient face à un phénomène aussi irréversible et radical. Merci beaucoup.
Merci pour votre témoignage très touchant. Ce que je peux dire, ou ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous évoquez le fait que vous êtes allé voir une psychologue ou une psychothérapeute pour parler de votre mère, et que vous dites que vous aviez l'impression de répéter sans cesse la même chose, eh bien je crois que c'est quelque chose de très, très important et très nécessaire parfois de répéter pendant un temps. Pendant peut-être même un temps qui peut paraître long. Parce que répéter ou parler de la personne disparue, c'est un moment nécessaire pour revivre quelque chose avec cette personne. Vous dites, parfois je parle d'elle en évoquant des choses qui peuvent ne pas être très importantes. Eh bien oui, ça fait aussi partie des éléments de l'expérience du deuil. Et je crois que ça, quand vous dites « est-ce qu'il faut que je m'en empêche ?» Bon, je ne veux pas vous dire ce qu'il faut faire, mais je crois que vous avez vous-même répondu à la question que vous posez. Je crois que vous avez raison de penser qu'il ne faut pas vous en empêcher.
L'inconscient, avec Laurie Lefer, sur France Inter.
Poursuivons notre réflexion avec vos questions. Je vous écoute.
Bonjour, je m'appelle François. J'adore votre podcast, et notamment celui sur le deuil. Et en particulier, ce que j'aime bien, c'est les exemples concrets. Par exemple, cette patiente qui voyait des fantômes partout. Ça m'a beaucoup amusé, et puis tout d'un coup, je me suis souvenu que moi, je me balade toujours avec un caillou que j'ai récupéré sur la tombe de ma femme, morte récemment. Et je le balade partout. Il est à côté de mon levier de vitesse dans la voiture quand je me balade en France, dans ma valise quand je vais à l'étranger. Alors c'est peut-être ce que vous appelez « elle est là, elle n'est pas là ». En tout cas, moi, quand je regarde des photos, c'est jamais que des souvenirs. Quand j'essaye de lui parler, j'ai l'impression de parler dans le vide, parce que là, ce caillou, il est bien là, il est bien réel, il est bien présent. Et alors, du coup, je le mets en situation face à un coucher de soleil. Et puis, je le prends en photo, j'envoie ça aux enfants. Après, je le mets discrètement sur la table de Noël au milieu des décorations pour que personne ne le voit, mais je sais qu'elle est là. Alors bon, c'est peut-être pas très très malin. Je sais pas combien de temps va durer cette histoire de doudou funéraire. Je pense pas être complètement fou. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci François pour ce très beau témoignage. C'est une très belle image, l'image du doudou funéraire. Votre caillou vous accompagne, vous parlez à votre caillou. Et comme vous, je ne pense pas que vous soyez fou. Votre témoignage me fait penser à l'histoire du peintre Kokoschka, Oscar Kokoschka. Il était fou amoureux de Alma Mahler, qui ne l'aimait pas en retour. Alors Kokoschka a fait fabriquer une poupée grandeur nature à l'effigie de Alma Mahler. Grandeur nature, véritablement, il prenait sa poupée avec lui, il l'a fait fabriquer par l'une des plus grandes spécialistes des marionnettes à l'époque, il l'emmenait à l'opéra avec lui, il louait une loge et il la mettait à côté, il la prenait comme modèle de certaines de ses peintures. Il y a des peintures dont le modèle est la poupée de Alma Mahler. Alors évidemment, tout le monde pensait que Kokoschka était fou. En fait, cet objet, ce doudou qui l'aide à se séparer de Alma Mahler, eh bien un jour, il a décidé de faire une grande fête avec plein d'amis et il a laissé tomber la poupée Alma Mahler. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme lorsqu'un enfant perd son doudou sans même s'apercevoir qu'il l'a perdu. Eh bien, je crois que chacun, lorsque nous traversons les épreuves de deuil, nous avons, consciemment ou inconsciemment, des doudous funéraires. Et je crois que c'est très nécessaire, parce que d'abord c'est aussi une façon de ritualiser l'expérience que nous avons avec l'absence et d'accepter le caractère un peu insolite de cette traversée. Je crois que c'est la signature de chacun. Chacun peut faire l'expérience d'une absence ou d'un deuil avec ses doudous funéraires. Je trouve que l'expression est très belle, très parlante.
Bonjour, je m'appelle Christiane. J'ai perdu mon fils il y a maintenant 16 ans. Et la question qui est posée à la fin de l'intervention, comment continuer ? Eh bien, au bout de 16 ans, je n'ai toujours pas la réponse. Si c'est possible d'avoir une réponse. Et je souffre toujours autant. Comment continuer ? J'ai suivi 5 ans de thérapie qui m'ont très bien aidée, mais voilà, je suis toujours dans ce désastre. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Au revoir.
Merci Christiane de ce témoignage. Vous le dites, et Freud le dit aussi, on restera inconsolable. À la mort de sa fille, Freud insiste, répète, on va pouvoir continuer, mais il n'y a pas de substitut, et on restera inconsolable. La cicatrice est là, il n'y a pas la possibilité que cette cicatrice ne laisse pas des traces indélébiles. Vous évoquez le désastre de la mort de votre fils, le désastre. Le désastre, c'est la chute de l'astre. Voilà, Christiane, ce que je pouvais vous dire.
Bonjour Vanessa, merci pour cette émission. Voilà, quand j'ai appris la mort de ma sœur d'une trentaine d'années, par suicide il y a 15 ans, je me souviens parfaitement de la douleur physique que j'ai ressentie à la tête, comme si mon cerveau allait exploser de douleur. Cette envie de me taper la tête contre la table pour que cette douleur s'arrête. Je me souviens aussi des sentiments de vide, d'amputation, de colère, d'angoisse et de perte de sens qui ont suivi face à cette mort insensée. ces questions, comment je vais pouvoir continuer, comment mes parents allaient-ils survivre à cette perte immense qui nous a tous laissé KO. Et je me souviens aussi du questionnement sur le temps qui passait, le monde qui continuait d'avancer alors que le mien s'était arrêté. Bien sûr, il y a des explications comme sa souffrance psychique qui l'a amenée à ce geste, et je peux comprendre qu'elle n'a pas pu faire autrement à ce moment-là, mais je ne lui ai pas encore bien pardonné d'avoir laissé ses jeunes enfants, mes parents et ma famille dans une souffrance qui a impacté durablement notre santé. Suite à cette perte, à l'époque, j'ai coupé avec des amis de longue date, du jour au lendemain, sans regret et sans explication, malgré l'amour que j'avais pour eux, faisant le vide autour de moi de relations que j'entretenais. Voilà, mes besoins étaient ailleurs. La question est celle-ci, est-ce que l'expérience du deuil, comme vous l'appelez, amène forcément à des ruptures nécessaires dans notre environnement amical, familial ou au travail, comme si le choc et le traumatisme de la perte nous réveillaient à la réalité de ce qu'on vit et surtout de ce qu'on ne veut plus vivre. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Merci Vanessa de ce témoignage. Je crois que dans votre témoignage, ce qu'il y a d'important, c'est de dire aussi que le deuil est une expérience corporelle. Il s'agit aussi, et vous le dites quand vous employez le terme d'amputation, il s'agit aussi de prendre la mesure de ce que l'expérience de la disparition brutale, de la rupture que vous évoquez, insensée, comme vous dites, est aussi effectivement une expérience temporelle et corporelle. Le temps ne passe plus et le corps est amputé. On perd un bout de soi. Et là, votre témoignage dit bien à quel point c'est un séisme parfois, qui bouge radicalement les plaques tectoniques. On ne se retrouve pas au même endroit. Alors oui, parfois, il y a des ruptures, elles sont peut-être nécessaires ou elles sont peut-être contingentes, contextuelles. Mais il y a effectivement une rupture qui fait que on se retrouve à un autre endroit, corporellement, temporellement, psychiquement. Merci à toutes et tous pour vos questions. Je tiens à remercier l'équipe, Amandine Frichou à la technique, Valentine Chedebois pour le choix du disque, Franck Olivard qui récolte vos questions et Audrey Ripouille à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec le docteur Nasio qui vous présentera sa manière de travailler à partir de 3 cas de patients. D'ici là, vous pouvez écouter son podcast sur notre page L'Inconscient sur franceinter.fr et lui laisser vos messages. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 19 mars pour réfléchir avec vous à la question du transfert en psychanalyse.